Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, chapitre 10, octobre 1816. Mardi 1er octobre, mon atlas, fatalisme, etc. Le gouverneur insiste vainement pour être reçu de l'empereur. Quand je suis entré chez l'empereur, il avait mon atlas entre les mains. Il allait et revenait sur diverses feuilles généalogiques dont il tient à merveille désormais tous les rapports et les nombreuses corrélations. Il l'a refermé, disant « Quel enchaînement, comme tout se suit et s'appuie, comme tout se débrouille, se grave dans l'esprit. Mon cher, quand vous n'auriez fait que montrer la véritable manière d'apprendre, vous auriez rendu un grand service. Libre à chacun désormais d'habiller votre squelette à sa façon, on le perfectionnera sans doute encore, mais l'idée mère vous demeurera, etc. » Dans divers sujets de conversation qui ont suivi, le fatalisme s'est trouvé mentionné, et l'empereur a dit à cet égard des choses curieuses et remarquables. Entre autres, « Ne me fait-on pas passer pour imbu du fatalisme » m'a-t-il demandé. « Mais oui, sire, du moins parmi beaucoup de gens. Eh bien, il faut laisser dire, aussi bien on peut vouloir imiter, et cela peut avoir parfois son utilité, ce que sont les hommes pourtant. » On est plus sûr de les occuper, de les frapper davantage par des absurdités que par des idées justes. Mais un homme de bon sens peut-il bien s'y arrêter un instant? Ou ce fatalisme admet le libre arbitre ou il le repousse? S'il l'admet, qu'est-ce qu'un résultat déjà fixé d'avance, vous dit-on, et que pourtant la moindre détermination, un seul pas, une seule parole, vont faire varier à l'infini? Si le fatalisme, au contraire, n'admet pas le libre arbitre, c'est bien autre chose. Alors quand vous venez au monde, il n'y a plus qu'à vous jeter dans votre berceau sans vous donner aucun soin. S'il est irrévocablement fixé que vous vivrez, bien qu'on ne vous donne à boire ni à manger, vous grandirez toujours. Vous voyez bien que ce n'est pas une doctrine soutenable, ce n'est qu'un mot. Les Turcs eux-mêmes, ces patrons du fatalisme, n'en sont pas persuadés, autrement il n'y aurait plus de médecine chez eux, et celui qui occupe un troisième étage ne se donnerait pas la peine de descendre longuement les escaliers, il descendrait tout de suite par la fenêtre, et vous voyez à quelle foule d'absurdités cela conduit, etc. Sur les 3 heures, on est venu dire à l'empereur que le gouverneur désirait lui communiquer des instructions qu'il venait de recevoir de Londres. L'empereur a fait répondre qu'il était malade, qu'on pouvait les lui faire parvenir ou les communiquer à quelqu'un des siens. Mais le gouverneur insistait, disant qu'il voulait lui en faire part directement. Il avait aussi, disait-il, à nous entretenir en particulier après avoir parlé au général. L'empereur ayant refusé de nouveau de le recevoir, il s'est retiré en disant qu'on voulut bien lui faire connaître quand il pourrait voir le général. Ce qui pouvait être fort long, l'empereur auprès duquel j'étais à cet instant m'ayant dit qu'il était déterminé à ne plus jamais le recevoir. Après dîner, l'empereur s'est fait apporter Valmont de Beaumart et Buffon. Il a cherché ce que ces auteurs disaient sur les différentes espèces humaines, sur la différence du nègre et du blanc. Il en a été très peu satisfait. Il nous a quittés de bonne heure. Il souffrait. Mercredi 2. L'empereur m'avait dit qu'il voulait absolument se remettre à l'anglais, qu'il fallait que je le forçasse chaque matin à prendre sa leçon. Fidèle à cet ordre, je me suis rendu chez lui vers 12h30. J'ai été malheureux dans le choix du moment. L'empereur, étendu sur son canapé, sommeillait après son déjeuner. J'ai dû le contrarier et je l'étais fort pour mon compte. Toutefois, il n'a pas voulu me laisser ressortir et a lu de l'anglais pendant près d'une demi-heure. Il n'était pas très bien. Il a fait sa toilette. Comme je lui ai dit que notre travail était prêt, il s'est proposé d'abord de s'occuper des chapitres de la campagne d'Italie, mais il a changé de pensée et a travaillé tout de suite à d'autres objets. Vers 5h, il a voulu sortir, il a trouvé qu'il faisait trop froid. Après dîner, il a voulu vainement essayer de la lecture, il n'a pu continuer, il se trouvait fatigué, endormi, souffrant, et s'est retiré presque aussitôt. Jeudi 3. Code, Merlin, etc., monument d'Égypte, projet d'un temple égyptien à Paris. L'empereur, après son déjeuner, a fait quelques tours de jardin. Nous étions tous autour de lui. Il a causé des communications que le gouverneur avait à nous faire et a passé en revue les diverses conjectures que chacun de nous formait à cet égard, les unes bonnes, les autres mauvaises. Le temps était supportable. Il a demandé la calèche et nous avons fait le tour du bois. La chaleur, la pesanteur de l'atmosphère, bien que le soleil fût couvert, l'ont forcé de rentrer. Il s'est mis au travail et a dicté à mon fils jusqu'à 5 heures. Nous avons essayé de nouveau quelques tours de jardin, mais déjà le froid et l'humidité étaient sensibles. Il est rentré et m'a dit de le suivre pour causer. Il a feuilleté un ouvrage anglais et s'est arrêté sur la jurisprudence, les procédures civiles et criminelles des deux pays, de France et d'Angleterre, cherchant à les comparer. On sait combien il est fort sur nos codes, mais il connaît peu ceux d'Angleterre, et à l'exception de quelques points généraux, je n'ai pu répondre à ses questions. Dans le cours du sujet, il a dit « Les lois qui sont en théorie le type de la clarté ne deviennent que trop souvent un vrai chaos dans l'application. C'est que les hommes et leurs passions détériorent tout ce qu'ils manient, etc. » On ne peut échapper à l'arbitraire du juge qu'en se plaçant sous le despotisme de la loi, etc. J'avais d'abord rêvé qu'il serait possible de réduire les lois à de simples démonstrations de géométrie, si bien que quiconque aurait pu les lire et eût pu lier deux idées, eût été capable de prononcer. Mais je me suis convaincu presque aussitôt que c'était une idée absurde. Toutefois, ajoutait-il, j'aurais voulu partir d'un point arrêté, suivre une route unique connue de tous, n'avoir d'autre loi que celle inscrite dans le seul code, et proclamer une fois pour toutes, nul et non avenu, tout ce qui ne s'y trouverait pas compris. Mais avec les praticiens, il n'est pas facile d'obtenir de la simplicité. Ils vous prouvent d'abord qu'elle est impossible, que c'est une véritable chimère, puis ils essaient de démontrer qu'elle est même incompatible avec la sûreté et l'existence du pouvoir. Celui-ci demeure seul et constamment exposé, disent-ils, aux machinations improvisées de tous. Il lui faut donc au besoin des armes en réserve pour les cas imprévus. Et si bien, observait Napoléon, qu'avec quelques vieux édits de Chilpéric ou de Pharamond, déterrés au besoin, il n'est personne qui puisse se dire à l'abri d'être dûment et légalement pendu. Au Conseil d'État, disait l'empereur, j'étais très fort, tant qu'on demeurait dans le domaine du code. Mais dès qu'on passait aux régions extérieures, je tombais dans les ténèbres, et Merlin était alors ma ressource. Je m'en servais comme d'un flambeau. Sans être brillant, il est fort érudit, sage, droit et honnête. C'est un des vétérans de la vieille et bonne cause, il m'était fort attaché. À peine le code eut paru qu'il fut suivi presque aussitôt, et comme en supplément, de commentaires, d'explications, de développements, d'interprétations, que sais-je, et j'avais coutume de m'écrier « Eh, messieurs, nous avons nettoyé l'écurie d'Augias, pour Dieu, ne l'encombrons pas de nouveau, etc. » À dîner, l'empereur a dit des choses fort curieuses sur l'Égypte, touchant un des chapitres qu'il avait dicté sur la religion, les usages, etc. Il faisait observer, comme bien digne de remarque, que du même coin de terre étaient sortis les trois cultes qui avaient déraciné le polythéisme et couvert tout le globe de la connaissance d'un seul Dieu. Alors, analysant de la manière la plus ingénieuse les deux religions de l'Orient et de l'Occident, il disait que la nôtre était toute spirituelle et celle de Mahomet toute sensuelle, que les châtiments dominaient chez nous, c'était l'enfer et ses supplices éternels, tandis que ce n'était que récompense chez les musulmans, les houris aux yeux bleus, les bocages riants, les fleuves de lait. Et de là, il concluait, en opposant les deux religions, que l'on pourrait dire que l'une était menace, elle se présentait comme la religion de la crainte, que l'autre, au contraire, était une promesse, et devenait la religion des attraits. On trouvera du reste toutes ces choses et une foule d'autres aperçus, aussi neufs que piquants, dans les chapitres du grand maréchal. De là, l'empereur est revenu à son expédition de Syrie et a posé comme principal but de l'expédition d'Égypte l'ébranlement de la puissance anglaise dans les quatre parties du monde, en amenant une révolution capable de changer toute la face de l'Orient et de donner de nouvelles destinées aux Indes. L'Égypte, disait-il, devait nous tenir lieu de Saint-Domingue et de nos colonies d'Amérique. Concilier la liberté des Noirs avec la prospérité de notre commerce, etc. Cette nouvelle colonie eut ruiné les Anglais en Amérique, dans la Méditerranée et jusque sur les bords du Gange, etc., etc. Et puis, répondant aux reproches qu'on lui avait faits d'avoir déserté son armée, il disait « Je n'avais fait qu'obéir aux cris de la France, qui me rappelait pour la sauver, et j'en avais le droit. J'avais reçu du directoire carte blanche pour toutes mes opérations dans le bassin de la Méditerranée, en Afrique et en Asie. J'avais des pouvoirs en règle pour traiter avec les Russes, les Turcs, les Barbaresques et les princes de l'Inde. » Je pouvais, à mon gré, nommer un successeur, ramener l'armée ou revenir de ma personne si je le jugeais à propos. En revenant au sol égyptien, il trouvait que tout ce qu'il avait vu en Égypte, et principalement tous ces fameux débris tant vantés, ne saurait néanmoins supporter la comparaison ni donner l'idée de Paris et des Tuileries. La seule différence de l'Égypte à nous était, à son avis, que l'Égypte, grâce à la pureté de son ciel et à la nature de ses matériaux, laissait subsister des ruines éternelles, tandis que notre température européenne n'en admettait point chez nous, où tout se trouvait rongé et disparaissait en peu de temps. Des milliers d'années, disait-il, laissaient des vestiges sur les bords du Nil. On n'en trouverait pas après 50 ans sur les bords de la Seine. Il regrettait fort, du reste, de n'avoir pas fait construire un temple égyptien à Paris. C'était un monument, disait-il, dont il voudrait avoir enrichi la capitale, etc. Vendredi 4, ressources dans l'émigration, anecdotes, etc., communications officielles, nouvelles offenses. Sur le midi, je suis entré chez l'empereur, qui a pris une très bonne leçon d'anglais dans Télémaque. Il s'est résolu à reprendre ma méthode. Il l'apprécie et en éprouve, dit-il, tout le bénéfice. Il me trouvait, observait-il, de grandes dispositions à être un fort bon maître d'école, et je répondais que c'était le fruit de mon expérience. Il m'a fait entrer alors dans beaucoup de détails sur le temps où je donnais des leçons à Londres, durant mon émigration, et s'en amusait fort. « Mais au fait, a-t-il dit, vous autres, vous avez dû honorer le métier, sinon par votre science, du moins par vos manières. » Et je lui ai appris alors qu'un de nos princes avait donné des leçons de mathématiques dans son émigration. « Et ce seul acte, s'est-il écrié, vivement en fait un homme, il atteste quelques mérites. Assurément, voilà un des plus grands succès de Madame de Genlis. » Et je lui ai rendu une anecdote singulière qu'on m'avait racontée à ce sujet. Le prince, disais-je, était en Suisse. Il se trouvait avoir besoin de cacher soigneusement son existence et voulait prendre un nom qui eût l'air de quelque vérité. Un de nos évêques du Midi n'imagina rien de mieux que de lui donner celui d'un jeune languedocien à l'oranime et très zélé protestant, ce qui convenait fort en cet instant parce que le prince se trouvait dans un canton protestant, n'y ayant certainement nulle apparence, observait l'évêque qu'il vint jamais le démentir. Or, il était arrivé que le jeune homme avait marché aux armées, qu'il était devenu aide de camp de M. de Montesquieu, et qu'à peu de temps de là, il avait précisément émigré en Suisse avec son général. Quelle ne fut pas sa surprise de se trouver à table d'hôte avec quelqu'un qui avait son nom, sa religion était de sa ville. C'était précisément la scène des deux sosies. Mais ce qu'il y avait de plus plaisant, c'est que le nouveau venu avait aussi changé son nom et se cachait soigneusement. On ne trouve de ces incidents que dans les romans, et on ne les croit pas possibles. Peut-être celui-ci a-t-il été un tant soit peu arrangé. Cependant, je croyais presque pouvoir affirmer le tenir de la bouche même du véritable sosie. Mais, observait ensuite l'empereur, ceux de vous autres émigrés qui vous étiez créés des ressources au dehors en rentrant en France, vous avez dû vous trouver dépaysés, ruinés de nouveau. Oui, sans doute, sire, car nous ne retrouvions rien et nous venions d'abandonner le peu que nous nous étions fait, mais nous n'avions pas calculé. L'impatience de revoir le sol natal l'avait emporté. Aussi beaucoup se trouvèrent bientôt dans le plus grand dénuement, sans quoi que ce fût au monde, bien que de grandes connaissances d'intimité, de familiarité même, avec beaucoup de grands personnages du jour, de vos ministres, sire, de vos conseillers d'État et autres. Circonstance qui suscita une saillie assez plaisante à l'un de vos esprits. Rencontrant dans le salon de la marine l'un des siens, et tous deux fort embarrassés de leur subsistance, il s'écria en forme de consolation « Mon cher, si nous venons à mourir de faim, nous pourrons encore avoir deux ou trois ministres à notre enterrement. » L'empereur en a beaucoup ri et convenait que le mot peignait à merveille la situation du temps et des choses. Après la leçon d'anglais et la conversation qui a suivi, l'empereur est sorti pour se promener. Nous avons gagné le fond du bois où la calèche est venue nous joindre. Au retour de la promenade, le docteur est venu dire à l'empereur que le colonel Reed, qu'il avait consenti de recevoir en lieu et place du gouverneur, demandait à lui être présenté. Cet officier a remis à l'empereur une note assez longue. L'empereur m'a appelé pour en être l'interprète. C'étaient les communications que Sir Hudson Lowe avait vainement essayé, durant 3 ou 4 jours, de faire lui-même en personne. C'était une satisfaction qu'il se ménageait vis-à-vis de l'empereur, car elles étaient exprimées dans les termes les plus offensants. Ce trait est caractéristique, il n'a pas besoin de commentaires. On trouvera cette note aux pièces officielles où j'y reviendrai lorsqu'elle aura amené un résultat. La dureté des expressions et surtout la menace qui s'y trouvait, souvent répétée contre nous, d'être arrachés d'auprès de l'empereur, nous a occupés désagréablement et a répandu sur nous tous beaucoup de sombre sur le reste du jour. Samedi 5, l'empereur lit mon journal et me dicte. Conférence entre le grand maréchal et le gouverneur. J'étais encore couché lorsque, d'assez bon matin, j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir doucement. Elle était si encombrée par mon lit et celui de mon fils qu'on arrive difficilement à moi. J'ai aperçu un bras en trouvant avec autorité mon rideau. C'était celui du maître. Heureusement, je me trouvais entre les mains un ouvrage de géométrie, ce qui l'a édifié et sauvé, a-t-il dit, ma réputation. Je me suis jeté à bas et en peu d'instants j'ai eu rejoint l'empereur qui seul gagnait le bois. Il a causé fort longtemps des événements de la veille. Il est rentré pour se mettre au bain, étant fort souffrant. Il avait passé une mauvaise nuit. À 1 heure, il m'a fait appeler. Il était au salon. Il désirait fort prendre sa leçon d'anglais. La chaleur était forte, le temps était lourd. L'empereur, fort abattu, n'a pu se livrer au travail. Il a sommeillé à diverses reprises. Je veillais à côté de lui. Enfin, il s'est décidé à prendre le dessus, a-t-il dit en se levant. Il a gagné la salle de billard pour respirer un peu le grand air. Causant des campagnes d'Italie, il m'a demandé ce que j'avais fait des premiers brouillons, remarquant que tous les chapitres avaient dû être recopiés plusieurs fois. Je lui ai dit que j'avais conservé le tout précieusement. Il m'en a fait apporter tout ce qui demeurait au dehors des 2 exemplaires complets et l'a envoyé brûler au feu de la cuisine. Je dois avoir dit plus d'une fois que l'empereur savait que je tenais mon journal. C'était demeuré un secret rigoureux pour tout le monde. Aussi l'empereur ne m'en parlait-il jamais qu'à la dérobée et quand nous nous trouvions seuls. Il m'a demandé souvent si je le continuais toujours et ce que je pouvais y mettre. « Sire, tout ce que dit et fait votre majesté, du matin au soir et chaque jour. « Vous devez donc avoir là, disait-il, un furieux rabâchage et beaucoup de choses inutiles. Mais n'importe, continuez, un jour nous le verrons ensemble. » Toutes les fois qu'il entrait dans ma chambre, il y apercevait le fidèle Ali, dont la complaisance, dans ses moments perdus, était employée à recopier discrètement ce journal. D'ordinaire, l'empereur venait alors jeter les yeux sur le travail d'Ali, et après en avoir parcouru 2 ou 3 lignes, c'est-à-dire après l'avoir reconnu, il s'en éloignait ou parlait d'autre chose, sans jamais avoir touché ce sujet. Cela lui était arrivé précisément encore ce matin. Il se l'est rappelé et m'a dit qu'il voulait enfin voir ce fameux fatras. Mon fils a été chercher le premier cahier, et la lecture a duré plus de 2 heures. Le préambule, qui m'est tout à fait personnel, a mérité son attention. Il s'en est montré satisfait, l'a relu et a terminé en disant « C'est bien, très bien, voilà un bel héritage pour le petit Emmanuel. » Quant au journal, il en a approuvé la forme et l'ensemble. Il a fait quelques corrections de sa propre main sur ce qui concernait sa famille et son enfance en faisant prendre la plume à mon fils et s'est mis à dicter des détails sur Brienne, le père Patrou, etc. En finissant, il m'a dit vouloir reprendre ce travail, désormais, qui lui plaisait et qu'il me promettait, puisque je semblais les aimer, bon nombre d'anecdotes, surtout sur Alexandre et les autres souverains, etc. Puis il a gagné la calèche où je suis monté seul avec lui, et le journal a fait la conversation de toute la promenade. L'empereur s'est fort étendu sur ce sujet. L'idée lui en plaisait beaucoup. Il m'a dit plusieurs choses à cet égard, concluant que ce pourrait devenir, par des circonstances particulières, un ouvrage unique, un trésor sans prix pour son fils, etc., etc. Au retour de la promenade, nous avons trouvé le grand maréchal. Il arrivait de Plantation House, où il avait été au sujet des communications d'hier. Nous avions attendu avec inquiétude ce qu'il pourrait rapporter. Il nous a appris qu'il ne s'était agi de rien de moins que de voir quatre de nous séparés de l'empereur. Il était encore un grand nombre d'autres points fort mauvais, mais celui-là les absorbait tous dans mon esprit. Enfin, le gouverneur avait conclu à n'éloigner que le Polonais et trois domestiques. Toutefois, j'étais celui, à ce que rapportait le grand maréchal, sur lequel l'orage avait grondé. J'étais celui dont le gouverneur s'était plaint davantage. Celui qui l'eût indiqué, s'il ne m'eût cru trop utile à l'empereur, avait-il dit. Il se plaignait de ce que j'écrivais sans cesse en Europe, déclamant toujours, disait-il, contre le gouvernement, son injustice, les oppressions qu'on exerçait sur nous ici, etc. Il se plaignait de ce que j'entretenais les étrangers qui venaient à longue route de l'empereur de manière à les y intéresser, de ce que je cherchais surtout à lier des communications au dehors, et il a rappelé Madame Stirner, de ce que j'avais adressé en Europe ou essayé d'y faire parvenir diverses pièces, etc., etc. Toutefois, après s'être montré si fort animé contre moi, et quel qu'ait été son motif, il a complètement adouci la chose par des observations emmêlées, tout à fait obligeantes, disant qu'il n'avait pas dû avoir lieu d'attendre tout cela d'une personne de tant d'instruction et d'une si belle réputation, comme aujourd'hui pouvait-il dire dans toute l'Europe, etc. Après dîner, l'empereur s'est amusé à résoudre des problèmes de géométrie et d'algèbre. Cela lui rappelait son jeune temps, disait-il, et il nous étonnait fort de l'avoir si peu oublié. Dimanche 6, lundi 7, mon journal, circonstances particulières, empire de l'opinion, Talma, Crescentini, etc. Ces deux jours ont amené une circonstance particulière qui tient de trop près à la nature de mon recueil pour que je pense à l'omettre. On vient de lire tout à l'heure que l'empereur avait été fort content de mon journal. Il y était revenu maintes fois dans le courant du jour, témoignant constamment qu'il aurait un vrai plaisir désormais à le parcourir et à le rectifier. De mon côté, on doit juger quelle devait être toute ma joie et ma satisfaction. Je touchais donc enfin à ce moment tant désiré et sur lequel je n'avais jamais cessé de compter, où ce que j'avais recueilli à la hâte et peut-être fautivement allait recevoir un salutaire redressement, une inestimable sanction. Les points incomplets seraient développés, les lacunes se rempliraient, les obscurités recevraient la lumière. Quel trésor de vérités historiques, de nœuds, de secrets politiques j'allais recevoir. C'était dans ces dispositions et triomphant que je me présentais le premier jour à l'heure habituelle avec mon journal. Mais l'empereur se mit à dicter sur tout autre sujet et force fut de se plier au contretemps. Le lendemain, même chose. Cette fois, je voulus rappeler à l'empereur mon journal, mais il ne m'entendit pas, et je compris. Je connaissais désormais Napoléon si bien, il avait, au dernier degré, l'art de ne pas entendre. Il l'employait souvent, et toujours avec intention. C'en fut donc assez pour moi, et je n'y revins plus. Toutefois, son motif m'occupa d'abord beaucoup, et je finis par en trouver plusieurs que le lecteur supposera peut-être aussi. Et puis encore, c'est que l'occasion ne se représenta plus. À peu de jours de là, je fus arraché d'auprès de lui, car mon heure était venue sans que rien néanmoins m'eût fait pressentir le moindrement du monde ce sinistre événement. Je viens d'appuyer sur cette circonstance avec une scrupuleuse exactitude, comme un nouveau garant de ma bonne foi, et afin d'assigner la nature précieuse de mon journal. Le fond des idées, des grandes surtout, ne saurait être douteux, mais quant aux détails que d'erreurs involontaires peuvent s'être glissées dans une rédaction rapide qui n'a pas été redressée par le seul qui pouvait le faire. L'empereur, durant sa toilette et en attendant le grand maréchal pour retravailler encore, s'est mis à causer d'objets divers. La conversation l'a conduit à parler de l'empire, de l'opinion, sur lequel il revient surtout. Il peignait le mystérieux de sa marche, l'incertitude, le caprice de ses décisions. De là, il est passé à notre délicatesse nationale, exquise, disait-il, en fait de bienséance. à la susceptibilité louable de nos mœurs, à la grâce, à la légèreté qu'elle requérait dans le pouvoir, si celui-ci est tenté d'oser les manier. Dans mon système, observait-il, de mêler tous les genres de mérite et de rendre une seule et même récompense universelle, j'eus la pensée de donner la croix de Légion d'honneur à Talma. Toutefois, je m'arrêtai devant le caprice de nos mœurs, le ridicule de nos préjugés, et je voulus, au préalable, faire un essai perdu et sans conséquence. Je donnai la couronne de fer à Crescentini. La décoration était étrangère, l'individu aussi. L'acte devait être moins aperçu et ne pouvait compromettre l'autorité, tout au plus que lui attirer quelques mauvaises plaisanteries. « Eh bien, résumait l'empereur, voyez pourtant quel est l'empire de l'opinion et sa nature. Je distribuais les sceptres à mon gré, l'on s'empressait de venir se courber devant eux, et je n'aurais pas eu le pouvoir de donner avec succès un simple ruban, car je crois que mon essai tourna fort mal. » « Oui, sire, a répondu quelqu'un très mal. Il fit grand bruit dans tout Paris. Il emporta l'anathème de tous les salons. La malveillance s'en donna à cœur joie et fit des merveilles. Cependant, dans une des belles soirées du faubourg Saint-Germain, l'indignation qu'elle avait créée se trouva noyée tout à coup par un bon mot. C'était une abomination, disait un beau parleur, une horreur, une véritable profanation. Et quel avait pu être le titre des Crescentini, s'écriait-il. Sur quoi la belle Madame Grassini, se levant majestueusement de son siège, lui répliqua du geste et du ton le plus théâtral « Et sa blessure, donc, monsieur, pour qui la comptez-vous ? » Ce fut alors un tel brouhaha de joie, d'applaudissements, que la pauvre Madame Grassini se trouva fort embarrassée de son succès. L'empereur, qui entendait cette anecdote pour la première fois, en a beaucoup ri. Il y est revenu souvent et l'a parfois raconté à son tour. À dîner, l'empereur nous disait qu'il avait travaillé 12 heures, et nous observions que sa journée n'était point encore finie. Cependant, il avait l'air souffrant et se montrait très fatigué. Mardi 8, combat d'Ulysse et d'Irus, Novera serait notre roi, etc. En entrant aujourd'hui chez l'empereur, je l'ai trouvé occupé à lire les journaux des débats dernièrement arrivés. À 3 heures, il a fait sa toilette. Son premier valet de chambre se trouvait malade. Il a répété plusieurs fois à ce sujet, durant sa toilette, qu'il s'en apercevait bien que ceux qui le remplaçaient n'avaient ni son habitude ni son adresse. Le temps était supportable. Nous avons marché vers le fond du bois où la calèche devait venir nous prendre. Je me trouvais une somme disponible à Londres. Je l'y avais apportée dans ma course de 1814. Les terribles souvenirs de mon émigration et les chances nouvelles m'avaient inspiré cette prudence, j'en recueillais le fruit. J'étais, par cette circonstance, celui de nous tous à Sainte-Hélène qui se trouvait le plus à son aise. Et ce qui me rendait cette somme un vrai trésor, c'était le bonheur de pouvoir la déposer aux pieds de l'empereur. Je la lui avais offerte plusieurs fois. Je lui en réitérai encore l'offre en ce moment en lui retraçant les outrages que le gouvernement venait de renouveler. Madame de Montholon, qui venait après nous, nous a rejoints précisément en cet instant. Elle faisait observer à l'empereur qu'il marchait si vite qu'elle avait craint de le perdre, mais que mes gesticulations lui avaient servi de point de vue et qu'elle s'embarrassait fort d'en deviner la cause. « Madame, lui a dit l'empereur avec une grâce charmante, il s'agitait pour me faire accepter ses générosités. Il s'offrait de nous faire vivre. » Nous sommes rentrés presque aussitôt. Il faisait très humide et l'empereur se plaignait de ses dents. Depuis quelque temps, il a des fluxions presque continuelles. Après le dîner, il a repris l'Odyssée. Nous en étions au combat d'Irus contre Ulysse sur le seuil de son propre palais, tous deux en mendiant. L'empereur désapprouvait fort cet épisode. Il le trouvait misérable, sale, inconvenant, indigne d'un roi. Et puis, ajoutait-il, après avoir épuisé tout ce que je trouve de mauvais, je devine ce qui m'affecte encore. Je me mets à sa place, c'est la crainte d'être rossé par un misérable. Il n'est pas donné à tout prince, à tout général, d'avoir les épaules de ses gardes ou de ses grenadiers. Je n'ai pas porte-fée qui veut. Le bon Homère remédie à tout cela en faisant ses héros autant de colosses, mais il n'en est pas ainsi parmi nous. Où en serions-nous, nous autres tous, a-t-il dit en parcourant de l'œil chacun de nous, si l'on en était encore au bon temps où la force du bras était le véritable sceptre. Voilà Novera, son valet de chambre, qui nous sert, il serait notre roi à tous. Il faut donc convenir, a-t-il continué, que la civilisation fait tout pour l'âme et la favorise entièrement aux dépens du corps. Mercredi 9. Le Polonais aux arrêts par le gouverneur, parole de l'empereur sur son fils et sur l'Autriche, nouvelle vexation, nouveaux outrages, parole de Lord Bathurst, nouvelle restriction, observation dictée par Napoléon. Nous marchions pour gagner la calèche. Chemin faisant, on nous a appris que le gouverneur venait de mettre le Polonais aux arrêts. C'était un essai, c'est un avertissement sans doute qu'il veut nous donner. La terreur est le moyen qu'il semble vouloir employer depuis l'arrivée des dernières instructions. Il s'y montre habile, nous verrons jusqu'à quel point il ira. En entrant chez l'empereur avant dîner, je l'ai trouvé triste, préoccupé, sombre. La conversation l'a conduit à mentionner l'Autriche. Il s'est étendu sur ses torts envers lui, sur les grandes fautes de sa politique, etc. Il a peint la faiblesse du souverain, qu'il a montré d'énergie, disait-il, que pour se perdre en morale aux yeux des peuples. Il s'est arrêté sur la vénalité, la dépravation, l'immoralité de ceux qui ont conseillé et accompli. De là, il est passé à l'aveuglement de la politique de l'Autriche, il a peint sa position fausse et dangereuse. Elle se trouvait, disait-il, dans un péril des plus imminents, se laissant complaisamment embrasser au front par un colosse quand elle n'avait pas à reculer d'un pas, car sur ses derrières et sur son flanc elle n'avait que des abîmes, etc. De là, l'empereur est arrivé naturellement à parler de son fils. « Quelle éducation lui donnera-t-on » disait-il. « De quels principes nourrira-t-on son enfance ? Et s'il allait avoir la tête faible, s'il allait tenir des légitimes, si on allait lui inspirer l'horreur de son père ? Cette idée fait frémir, observait-il douloureusement. Et pourtant, quel pourrait être le contrepoison à tout cela ? Il ne saurait y avoir désormais d'intermédiaire sûr, de tradition fidèle entre lui et moi. Tout au plus un jour mes mémoires, peut-être aussi votre journal. Mais encore pour surmonter le pli, les impulsions de l'enfance, pour vaincre les vices de l'entourage, faut-il déjà une certaine capacité, une certaine force de tête, un jugement tranchant, décisif ? Et tout cela est-il donc si commun ? Et il avait l'air profondément affecté. « Mais parlons plutôt d'autre chose », a-t-il prononcé fortement, et il n'a parlé de rien. Nous nous sommes mis au travail. Après quelques heures, le grand maréchal m'a remplacé. En sortant à son tour de chez l'empereur, il m'a dit que j'étais demandé de nouveau pour traduire un gros paquet du gouverneur. Mes yeux, qui se perdent tout à fait, m'ont forcé d'aller employer ceux de monsieur de Montholon. En voici le contenu. Premièrement, une partie des nouvelles restrictions qu'on nous impose, dans lesquelles l'empereur est traité d'une manière qu'on pourrait appeler curieuse, dans l'excès de l'indécence et de l'outrage, allant jusqu'à lui prescrire la nature et l'étendue des paroles qu'on lui permet. Le croira-t-on jamais ? Les pièces feront foi. Voyez plus loin, à la fin du jour. Deuxièmement, la forme de la déclaration qu'on présente à notre signature. Le tout respire du reste les vexations les plus arbitraires et les plus inutiles, assaisonnées de tout ce que peut dicter la vengeance armée du pouvoir. Et troisièmement, une lettre du gouverneur au grand maréchal, calquée sur la note précédente par le colonel Reed dont je fis lecture à l'empereur et que le colonel ne voulait pas laisser. J'en ai fait mention plus haut. Toutefois, certains points très essentiels étaient ici très habilement supprimés ou modifiés. L'empereur a souvent remarqué que c'était là un des talents spéciaux du gouverneur. Je vais consigner ici ce qui m'en était resté. Bien que le résultat d'une simple lecture ait traduit à mesure à l'empereur, j'oserais néanmoins en garantir l'exactitude. Les Français qui désireraient demeurer auprès du général Bonaparte étaient astreints à signer la formule littérale qui leur serait présentée et par laquelle ils se soumettaient à toutes les restrictions que l'on imposerait au général. Cette obligation devait être regardée comme perpétuelle. Ceux qui s'y refuseraient seraient envoyés au cap de Bonne-Espérance. La suite du général devait être réduite de 4 personnes. Ceux qui demeureraient seraient comme s'ils étaient nés anglais, assujettis aux lois faites pour garantir la réclusion du général Bonaparte, c'est-à-dire la peine de mort en cas qu'on se prêtât à son évasion. Chacun des Français qui se permettait des injures, des réflexions ou une mauvaise conduite envers le gouverneur ou le gouvernement serait sur le champ expédié au Cap de Bonne-Espérance, d'où il ne lui serait fourni aucun moyen de retourner en Europe, le tout dans ce cas devant être assez frais. Pendant le dîner et la plus grande partie du soir, ces pièces ont été le sujet de la conversation. L'article de la lettre du gouverneur, transmettant les instructions des ministres, et portant que ceux de nous qui manqueraient d'égard pour le gouverneur, ou se montreraient autrement répréhensibles, seraient envoyés au Cap et de là en Europe, et que, dans ce cas, on y insistait fortement, ce serait à nos frais, nous a fort réjouis. Comme nous nous égayons beaucoup sur cette tournure, l'empereur a dit « Je conçois que ce genre de menace vous étonne et vous paraisse ridicule, mais il est des plus simples pour Lord Bathurst et je suis sûr qu'il n'imagine pas de plus terrible punition au monde. Voici les mœurs de la boutique. » L'empereur a fini la soirée en nous lisant Adélaïde du Guesclin. Il y a une belle tirade sur les Bourbons. L'empereur, après l'avoir lu, a dit « Ne s'était-on pas avisé au temps de ma puissance de la supprimer au théâtre, craignant qu'elle ne me blessât? Le hasard me le fit savoir et j'ordonnai de la rétablir. C'était ainsi qu'il en était d'une foule de choses. On a mis souvent bien de la gaucherie à vouloir me servir ou m'être agréable. » Nota bene, nous transcrivons ici les restrictions mentionnées quelques lignes plus haut. Elles sont curieuses par leur nature et serviront, plus que beaucoup de raisonnements, à donner une idée juste de notre situation. Mais ce qui achève de donner du prix à cette pièce, c'est que les observations qui accompagnent chaque article sont de Napoléon lui-même, qui les y annexa plus tard dans l'espoir de les faire parvenir en Europe. Restrictions faites par Sir Hudson Lowe, communiqué à Longwood le 19 octobre 1816. Texte des restrictions. Premièrement, Longwood, avec la route par Hudsgate le long de la montagne jusqu'au poste des signaux près d'Alarm House, sera établi comme limite. Observation. Le prédécesseur de Sir Hudson Lowe avait étendu la ligne des limites sur les sommets des montagnes, mais s'étant aperçu une quinzaine de jours après qu'en déplaçant un peu le poste de soldat, il comprendrait dans les limites la maison et le jardin du secrétaire général Brooke, il se hâta de faire ce changement. À environ 80 toises de la route est le jardin de Corbett, où sont 8 ou 10 chênes qui donnent un peu d'ombrage. On y trouve une fontaine et quelques fraîcheurs. Par les nouvelles restrictions, en ne permettant plus que la grande route, on a substitué une simple ligne à une surface et on a exclu des limites la maison du secrétaire et le jardin Corbett. Deuxièmement, des sentinelles marqueront les limites que personne ne pourra traverser pour approcher la maison de Longwood ou de son jardin sans la permission du gouverneur. Observation. D'après les premiers règlements auxquels était soumis notre établissement dans cette île et que le gouvernement anglais a approuvé, voici comment on venait à Longwood. Le gouverneur, l'amiral, le colonel commandant le régiment et le camp, les 2 membres du conseil de la Compagnie des Indes et le secrétaire général, qui étaient les principales autorités de l'île, pouvaient traverser la ligne des sentinelles sans aucune passe ou permission de qui que ce soit. Les habitants devaient avoir une permission du gouverneur, les marins de leur amiral, les soldats de leur colonel, et enfin les habitants, les marins, les officiers pouvaient tous venir avec une permission du comte Bertrand lorsque l'empereur les faisait demander. Cet arrangement, qui subsista 8 mois, n'eut aucun inconvénient. Par le règlement actuel, qui est en force depuis le mois d'août, mais qui n'a été communiqué que par cet article, nous sommes gardés au secret, sans que nous ayons aucun commerce avec les habitants. Ces derniers, les officiers et les marins, répugnent également à l'idée d'avoir à aller demander au gouverneur la permission de se rendre à Longwood et d'avoir à subir un interrogatoire sur le motif qui les y fait aller. Les étrangers, soit officiers, soit fonctionnaires, venant des Indes, qui touchaient cette île et qui désiraient voir l'empereur, se présentaient ordinairement chez le comte Bertrand, qui leur disait le jour et l'heure où ils seraient reçus. Durant leur séjour dans l'île, ils étaient regardés comme citoyens, et avec la permission du comte Bertrand, ils pouvaient, lorsque cela leur faisait plaisir, venir visiter Longwood. Et encore une fois, cet arrangement subsista 8 mois, sans qu'il en résultât aucun inconvénient. S'il arrivait quelques étrangers qui attiraient les soupçons du gouverneur, ils pouvaient aussitôt défendre leur débarquement ou les empêcher de passer le premier poste. Enfin, le gouverneur, par le rapport des sentinelles, savait tous les jours le nom des personnes venues à Longwood. Mais lorsque tout cela fut changé dans le mois d'août, le gouverneur essaya de nous imposer l'obligation de recevoir les étrangers auxquels il voulait être agréable de les recevoir le jour qu'il lui plairait. C'était le comble de l'outrage. L'empereur fut obligé de déclarer qu'il ne verrait plus personne, et il termina ainsi toutes ses insultes. Troisièmement, la route à gauche de Hut's Gate, qui retourne par Woodridge à Longwood, n'ayant jamais été fréquentée par le général Bonaparte depuis l'arrivée du gouverneur, le poste qu'il observait sera en grande partie retiré. Cependant, toutes les fois qu'il voudra aller à cheval dans cette direction, en prévenant l'officier à temps, il n'éprouvera aucun obstacle. Observation. Dans la première observation, on a prouvé que les limites avaient été réduites de ce côté. Ici, elles sont bien plus réduites encore. C'est une étrange manière de raisonner que de prendre cette décision sous le prétexte que la vallée n'a pas été fréquentée pendant 6 mois. Il est vrai que depuis plusieurs mois, Napoléon, tourmenté par les vexations du commandant, n'est point sorti. De plus, une partie de la vallée n'est pas praticable en temps de pluie. Dans l'autre partie, on a formé un camp. Cependant, Lord Bathurst dit dans son discours au Parlement que cette route n'avait été défendue que lorsqu'on s'aperçut qu'il, le général Bonaparte, avait abusé de la confiance qu'on avait en lui pour essayer de corrompre les habitants. Mais ici, il est en contradiction avec Sir Hudson Lowe. L'offre que l'on a faite de se promener dans cette vallée lorsqu'on le désire est évidemment illusoire. Les détails ordonnés pour l'exécution la rendent impossible. Cette offre n'a pas pu être et n'a pas été accomplie. En perdant cette promenade, il est devenu impossible d'aller dans le jardin de Miss Mason où se trouvent quelques grands arbres qui donnent de l'ombre. De sorte qu'il n'y a plus un point dans les limites où les détenus peuvent se promener, où ils puissent trouver un peu d'ombre et une fontaine. Dans le reste de l'enceinte, on a placé des sentinelles. Sous prétexte de malentendus dans les ordres ou autrement, toute personne peut être arrêtée, et cela est arrivé plusieurs fois aux officiers français. Quatrièmement, s'il, le général Bonaparte, voulait prolonger sa promenade dans quelque autre direction, un officier de l'état-major du gouverneur, s'il en est informé à temps, sera prêt à l'accompagner. Si le temps manquait, l'officier de service à Longwood le remplacerait. L'officier qui le surveille a ordre de ne point l'approcher, à moins qu'il ne soit demandé, et de ne jamais surveiller sa promenade, excepté pour ce que lui commande son service, c'est-à-dire de veiller à tout ce qui pourrait, dans ses promenades, s'écarter des règles établies, et de l'en avertir respectueusement. Observation, ceci est inutile. L'empereur ne sortira pas tant qu'il verra le désir de le soumettre à une inspection directe et publique. En outre, les officiers de l'état-major ont ordre de faire un rapport de tout ce que les Français peuvent avoir dit en conversation avec eux. Ceci fournit des occasions à la calomnie. Plusieurs officiers ont refusé de jouer ce rôle honteux et ont déclaré qu'ils n'étaient pas des espions pour répéter les conversations qu'on pouvait avoir avec eux dans l'intimité d'une promenade. Cinquièmement, les règlements déjà en force pour empêcher les communications avec qui que ce soit, sans la permission du gouverneur, doivent être strictement exécutés. En conséquence, il est requis du général Bonaparte qu'il s'abstienne d'entrer dans aucune maison ou d'engager aucune conversation avec les personnes qu'il pourrait rencontrer, excepté ce que demandent les saluts et les politesses ordinaires qu'il aurait à rendre, à moins que ce ne soit en présence d'un officier anglais. Observation. Jusqu'ici, cet excès d'outrage avait été éludé. L'empereur ne reconnaît, ni dans le gouverneur, ni dans ses agents, le droit de lui rien imposer. Mais quel est l'objet de cet article? D'insulter le caractère des détenus et de les avilir. De chercher à faire naître des querelles avec les sentinelles. L'enceinte est moralement annulée, puisqu'on ne peut parler à personne ni entrer dans aucune maison. Ceci est si extraordinaire qu'on est obligé de croire ce que plusieurs personnes soupçonnaient déjà, que Sir Hudson Lowe est quelquefois sujet à des vertiges. Et sixièmement, les personnes qui, avec le consentement du général Bonaparte, peuvent toujours recevoir des permissions pour le visiter, ne peuvent, malgré ces permissions, communiquer avec aucune autre personne de sa suite, à moins que ce ne soit spécialement exprimé dans ces permissions. Observation, ceci est également inutile. Personne n'a été reçu depuis que le commandant actuel a renversé ce qu'avait établi son prédécesseur. Cependant, il résulte de cette restriction que, si Napoléon devait recevoir un étranger, comme aucun de ses officiers ne pourrait être présent, ni aucun de ses domestiques faire son service, il serait obligé d'ouvrir lui-même les portes, et que, comme il n'entend pas l'anglais, si la personne admise ne parlait pas français, il s'ensuivrait que la conversation demeurerait muette et l'entrevue réduite à une pure exhibition. Septièmement, au coucher du soleil, l'enceinte du jardin autour de Longwood sera regardée comme étant les limites. À cette heure, des sentinelles seront placées alentour. Mais de manière à ne pas incommoder le général Bonaparte en observant sa personne s'il voulait continuer sa promenade dans le jardin après cette époque. Les sentinelles seront postées pendant la nuit à toucher la maison, comme cela se pratiquait auparavant, et l'admission sera interdite jusqu'à ce que les sentinelles soient retirées le lendemain matin de la maison et du jardin. Observation. Pendant les grandes chaleurs, le seul moment où l'on puisse se promener est le coucher du soleil. Pour ne point se rencontrer avec les sentinelles, il faudra rentrer dans la maison, quoiqu'il fasse encore plein jour, et pourtant il aura été impossible de sortir tout le temps qu'il aura fait du soleil, cet endroit étant privé d'ombre, d'eau, de verdure ou de fraîcheur. Selon cette nouvelle restriction, on ne peut sortir le soir. L'empereur ne peut prendre aucun exercice à cheval. Il est dans une maison tout à fait insuffisante, mal construite et malsaine. Il y manque même de l'eau. On ne perd aucune occasion de lui faire éprouver un manque d'égard. Sa constitution, quoique robuste, en est considérablement altérée. Huitièmement, toute lettre pour Longwood sera mise par le gouverneur sous une enveloppe cachetée et envoyé à l'officier de service pour être délivré, cacheté, à l'officier de la suite du général Bonaparte auquel elle est adressée, lequel, par ce moyen, sera assuré que personne autre que le gouverneur n'en connaît le contenu. De la même manière, toute lettre de personne de Longwood doit être délivrée à l'officier de service, mise sous une seconde enveloppe cachetée et adressée au gouverneur, ce qui assurera que personne autre que lui n'en connaîtra le contenu. Aucune lettre ne doit être écrite ou envoyée, aucune communication de quelque espèce qu'elle soit ne doit être faite, excepté en la manière susmentionnée. On ne peut avoir aucune correspondance dans l'île, excepté pour les communications qui sont indispensables à faire au pourvoyeur. Les notes qui les contiendraient doivent être données ouvertes à l'officier de garde qui sera chargé de les faire parvenir. Les restrictions susmentionnées commenceront à s'observer le 10 courant. Sainte-Hélène, 9 octobre 1816, Hudson Lowe. Observation, ceci ne regarde pas l'empereur, qui n'écrit ni ne reçoit de lettres. En conséquence, on ne demande qu'une explication. Regarderait-on comme un délit ce que ses officiers pourraient écrire dans des lettres confidentielles à leur connaissance? Ou lorsque ceux qui doivent lire ces lettres se seront convaincus que leur contenu ne renferme rien de contraire à la sûreté de l'État ou à sa politique, oublierait-il le contenu de ces lettres de manière à ce qu'elles ne soient jamais le sujet de conversation ou d'abus? S'il en était ainsi, toute correspondance doit être considérée comme défendue. La saisie commise sur la personne du comte de Las Cases justifie amplement cette observation. Le but de cet article, comme l'a prouvé l'inquisition exercée dans toute l'île, est que les papiers nouvelles n'informent pas l'Europe de la conduite criminelle que l'on suit ici. On se donnera bien de la peine pour obtenir ce résultat. Il eût été bien plus simple de se conduire de manière à n'avoir rien à cacher. On alla bien plus loin dans une lettre datée du 1er juillet 1816 adressée au comte Bertrand. On défendit même les communications verbales avec les habitants. C'est le délire de la passion et de la haine, ou plutôt une preuve manifeste de folie. Ce règlement est un léger exemple de toutes les vexations qui font l'occupation journalière du gouverneur actuel. que Lord Bathurst dise maintenant que Sir Hudson Lowe n'a fait aucune restriction, que la correspondance du ministère a été entièrement à l'avantage des personnes détenues, que le seul objet a été la sûreté de la détention. En proie à un traitement aussi absurde et aussi ignoble, l'empereur n'est point sorti depuis plusieurs mois. Tous les gens de l'art peuvent prédire qu'il succombera à ce genre de vie. C'est une manière de l'assassiner, aussi certaine et plus barbare que le fer et le poison. Quelle horrible prophétie! Jeudi 10. Nos anxiétés, nos peines au sujet des nouvelles restrictions, anecdotes de Campo Formio, messieurs de Cobenzell, de Gallo, Clark, le comte d'Entraigues. Nous étions convenus de nous réunir tous ce matin chez le grand maréchal pour conférer sur ce que le gouverneur venait de nous transmettre afin d'adopter un parti uniforme. Je me suis trouvé incommodé, je n'ai pu m'y rendre. Je lui ai écrit mon opinion. Je lui ai demandé que, dans une situation aussi délicate, j'avais beau faire, je ne pouvais arriver à aucune conclusion positive. Je trouvais toujours égalité. En effet, le point était des plus difficiles et des plus graves. Il s'agissait de se soumettre à des restrictions nouvelles, de se placer sous la dépendance du gouverneur qui en abusait d'une manière indigne, se conduisait vis-à-vis de l'empereur sous les formes les plus indécentes, et annonçait que tout cela pouvait et devait croître encore. Enfin, il ne s'agissait de rien moins que de se trouver exposé à être immédiatement arraché d'auprès de Napoléon, renvoyé au Cap et de là en Europe. D'un autre côté, l'empereur, indigné des vexations dont on nous accablait à cause de lui, ne voulait pas que nous nous soumissions davantage. Il exigeait que nous le quittassions plutôt tous, que nous retournassions en Europe, témoigner que nous l'avions vu ensevelir tout vivant. Mais était-il en notre pouvoir de supporter une pareille idée? La mort nous eût paru préférable à nous séparer de celui que nous servions, que nous admirions, que nous aimions, auquel nous nous attachions chaque jour davantage, et par ses qualités personnelles et par les maux que l'injustice et la haine accumulaient sur sa tête. Voilà quel était le véritable état de la question. Nous étions déchirés et ne savions à quoi nous résoudre. Je terminais ma lettre en disant que, si j'étais laissé à moi seul, je signerais sans observation tout ce que le gouverneur me présenterait, que si l'on prenait un parti collectif, je l'adopterais aveuglément. Le gouverneur avait trouvé un moyen de nous attaquer en détail. Il se disait déterminé à renvoyer chacun de nous, suivant sa volonté et son caprice. L'empereur n'était pas bien. Le docteur lui a trouvé des principes de scorbut. Il m'a fait venir. Nous avons beaucoup causé sur les objets qui nous occupent en ce moment. Il a voulu se mettre au travail pour se distraire et a pris le chapitre de Léoben qui lui est tombé sous la main. La lecture finie, la conversation a continué sur les conférences qui ont amené le traité de Campo Formio. Je renvoie à ces chapitres intéressants pour le portrait et le caractère du premier négociateur autrichien, M. de Cobenzell, que Napoléon surnomma dans le temps « l'ours du Nord », à cause du grand rôle, disait-il, que sa grosse et lourde patte avait joué sur le tapis vert des négociations. Monsieur de Cobenzell était en ce moment, disait l'empereur, l'homme de la monarchie autrichienne, l'âme de ses projets, le directeur de sa diplomatie. Il avait occupé les premières ambassades de l'Europe et s'était trouvé longtemps auprès de Catherine, dont il avait capté la bienveillance particulière. Fier de son rang et de son importance, il ne doutait pas que la dignité de ses manières et son habitude des cours ne dussent écraser facilement un général sorti des camps révolutionnaires. Aussi aborda-t-il le général français, observait Napoléon, avec une certaine légèreté. Mais il suffit de l'attitude et des premières paroles de celui-ci pour le remettre aussitôt à sa place, dont, au demeurant, il ne chercha jamais plus à sortir. Les conférences languirent d'abord beaucoup. Monsieur de Cobenzell, suivant la coutume du cabinet autrichien, se montra fort habile à traîner les choses en longueur. Cependant, le général français résolut d'en finir. La conférence qu'il s'était dit devoir être la dernière fut des plus vives. Il en arriva à mettre le marché à la main. Il fut refusé. Se levant alors avec une espèce de fureur, il s'écria très énergiquement « Vous voulez la guerre? Eh bien, vous l'aurez. et saisissant un magnifique cabaret de porcelaine que monsieur de Cobencel répétait chaque jour avec complaisance lui avoir été donné par la grande Catherine, il le jeta de toutes ses forces sur le plancher où il vola en mille éclats. « Voyez, s'écria-t-il, eh bien, telle sera votre monarchie autrichienne avant 3 mois, je vous le promets !» Et il s'élança précipitamment hors de la salle. « Monsieur de Coppenzell demeura pétrifié, disait l'empereur. Mais monsieur de Gallos, son second, et beaucoup plus conciliant, accompagna le général français jusqu'à sa voiture, essayant de le retenir. « Me tirant force coups de chapeau, disait l'empereur, et dans une attitude si piteuse qu'en dépit de ma colère ostensible, je ne pouvais m'empêcher d'en rire intérieurement beaucoup. » Monsieur de Gallos était l'ambassadeur de Naples à Vienne. Il y avait conduit la princesse de Naples, seconde femme de l'empereur François, dont il possédait toute la confiance et qu'il gouvernait. Elle, à son tour, gouvernait son mari, de sorte que M. de Gallos jouissait d'un fort grand crédit à la cour de Vienne. Aussi, quand l'armée d'Italie, marchant sur Vienne, imposa l'armistice de Léoben, l'impératrice, dans une crise aussi terrible, jeta les yeux sur son confident pour le charger de détourner le péril. Il devait voir le général français comme en passant et tâcher d'obtenir de lui qu'il voulût bien l'accepter pour négociateur. Napoléon, bien au fait de toutes les circonstances, se promit d'en tirer un grand parti. Aussi, en recevant M. de Gallos, il lui demanda qui il était. Le courtisan favori, déconcerté d'être obligé de décliner son nom, lui répondit qu'il était le marquis de Gallos, chargé de la part de l'empereur d'Autriche de lui faire quelques ouvertures. « Mais, dit Napoléon, votre nom n'est point allemand. »« Il est vrai, répondit M. de Gallos, je suis ambassadeur de Naples. » « Et depuis quand ?» répliqua sèchement le général français, « ai-je à traiter avec Naples ? Nous sommes en paix. L'empereur d'Autriche n'a-t-il donc plus chez lui aucun des négociateurs de la vieille roche ? Toute la vieille aristocratie de Vienne est-elle éteinte ?» M. de Gallos, épouvanté par de pareilles observations, ne fut dès cet instant occupé qu'à complaire en tout au jeune général. Napoléon, radouci, lui demanda des nouvelles de Vienne, parla des armées du Rhin, de Sambre-et-Meuse, il en tira tout ce qu'il voulut, et quand il fallut se séparer, M. de Gallos lui demanda, en attitude de suppliant, s'il pouvait espérer d'être accepté pour négociateur, et s'il devait aller chercher des pleins pouvoirs à Vienne. Napoléon n'avait garde de le refuser, il venait de prendre un avantage qu'il ne perdit jamais. Monsieur de Gallos, devenu plus tard, par la suite des événements que tout le monde connaît, ambassadeur de Naples auprès du premier consul, et même celui de Joseph auprès de l'empereur Napoléon, lui parlait quelquefois de cette scène, lui avouant naïvement que, de sa vie, personne ne l'avait autant effrayé. Clark était le second négociateur français, comme Monsieur de Gallos était celui de l'Autriche. Clark, disait l'empereur, avait été envoyé en Italie par le directoire, qui commençait à me croire dangereux. Il l'avait chargé d'une mission apparente et publique, mais il avait l'ordre secret de m'observer, de s'assurer même si, au besoin, il y aurait possibilité de me faire arrêter. Et comme il y aurait eu peu de sûreté à s'adresser aux officiers de mon armée à cet égard, les premières informations se prirent auprès du directoire cisalpin, qui répondit qu'on devait s'éviter toute peine sur ce point et n'y plus songer. Dès que je fus informé des véritables instructions de Clark, j'abordai franchement le sujet avec lui. Il m'importait peu qu'on rendît des comptes, disais-je. Il ne tarda pas à s'en convaincre. Sa mission en Autriche repoussée par cette puissance, je lui offris de le faire travailler, et il me resta depuis, je n'ai cessé d'en prendre soin, suivant ma coutume, bien qu'au fond nous n'eussions peut-être pas une grande sympathie. Et je l'aurais indubitablement repris lors de mon retour si je l'eusse retrouvé dans les rangs avec les autres. On sait que je me défaisais difficilement de ceux avec qui j'avais commencé. Quand on s'était une fois embarqué avec moi, je ne savais pas ce que c'était que de jeter quelqu'un à la mer, il me fallait y être forcé. Son premier talent était d'être grand travailleur. Après Brumaire, Clark se trouva naturellement près du premier consul, comme aide de camp ou autrement. Il y avait alors moins d'étiquettes au palais, les attributions étaient moins distinctes, on y vivait beaucoup plus en famille. L'entourage du consul formait une table commune. Clark y eut quelques querelles, il était très susceptible, fort pointilleux. Quelque chose en ayant rejailli jusque sur le premier consul même, celui-ci le nomma à l'ambassade de Florence auprès de la reine d'Étrurie. Le poste était charmant en lui-même, mais c'était une disgrâce. Clark sollicita longtemps et de toute manière pour être rappelé. Cet heureux moment arriva, mais son épreuve n'était pas finie. Le premier consul lui parlait peu, le faisait courir aux Tuileries, à Saint-Cloud, au camp de Boulogne, ne s'expliquait point, ne lui accordait rien. Clark, au désespoir, confié à quelqu'un qui ne lui restait plus qu'à se jeter dans la Seine, ne pouvant supporter plus longtemps l'apparence du mépris et du dénuement de sa situation. Il en était là quand, tout à coup, il lui arriva, et au même instant, de se trouver nommé secrétaire au cabinet topographique, conseiller d'État et autre chose encore, lui composant un traitement peut-être de 60 à 80 000 francs. C'était là le fer de Napoléon. Il est connu que son premier bienfait en amenait presque toujours immédiatement beaucoup d'autres. Dans ce cas, il ne donnait pas, il accablait. Mais encore fallait-il savoir profiter de cet instant. Il pouvait être sans bornes ou s'évanouir sans retour. J'avais beaucoup connu le général Clark à titre d'ancien camarade de l'école militaire. Dans ce temps, il m'a raconté que quelques jours avant la bataille d'Iéna, l'empereur, sous la dictée duquel il venait d'écrire une foule d'ordres et d'instructions, s'était mis à causer familièrement tout en marchant dans sa chambre et qu'il avait dit « Dans 3 ou 4 jours, nous donnerons une bataille que je gagnerai. Elle me portera au moins à l'Elbe et peut-être à l'Oder. Là, je donnerai une seconde bataille que je gagnerai de même. Alors, allons, dit-il d'un air méditatif et la main sur le front. Mais c'est assez, ne faisons point de roman. Clark, dans un mois, vous serez gouverneur de Berlin, et l'histoire vous citera comme ayant été, dans la même année et dans 2 guerres différentes, gouverneur de Vienne et de Berlin. » C'est-à-dire des monarchies d'Autriche et de Prusse. « À propos de cela, ajouta-t-il en riant, que vous a donné François pour avoir gouverné sa capitale ?»« Sire, rien du tout. C'est bien fort, eh bien, c'est donc à moi de payer sa dette. » Et il lui donna une assez forte somme pour acheter, autant que je puis me le rappeler, un hôtel à Paris ou une maison de campagne dans les environs. De reste, il est à remarquer que les événements dépassèrent même les combinaisons de Napoléon. Il ne donna qu'une bataille. Le 17e jour, il était dans Berlin et il se trouva porté jusqu'à la Vistule. Clark, disait Napoléon, avait la manie des parchemins. Il passait une partie de son temps à Florence à rechercher ma généalogie. Il s'occupait aussi beaucoup de la sienne, et il était venu à bout de se persuader, je crois, qu'il était le parent de tout le faubourg Saint-Germain. Nul doute qu'il ne se croit aujourd'hui beaucoup plus relevé d'être le ministre d'un roi légitime que d'avoir été celui d'un empereur parvenu. Il jouit dans ce moment, dit-on, d'une grande faveur. Je lui en souhaite la durée. Elle a commencé peu de jours avant mon arrivée à Paris, au moment où la cause du roi était désespérée. Il aura trouvé beau d'accepter un ministère quand tout paraissait perdu. Je n'ai rien à dire contre, cela peut avoir été son bon côté, mais il faut avoir des convenances, et il en a manqué. Toutefois, je lui pardonne facilement ce qui me concerne. Et plus d'une fois, en 1813 ou 1814, on essaya de m'inspirer des doutes sur sa fidélité. Je ne m'y arrêtais jamais, je l'ai toujours cru probe et honnête. Et les intimes du duc de Feltre peuvent attester que Napoléon n'était que juste dans l'opinion qu'il avait prise des sentiments de son ministre. Le duc de Feltre, en rendant compte à l'empereur de l'arrivée de monsieur le comte d'Artois en Suisse, lui conseillait de faire la paix. L'empereur lui répondit, sous la date du 22 février 1814, « Quant au conseil que vous me donnez de faire la paix, c'est trop ridicule. C'est en s'abandonnant à de telles idées qu'on gâte l'esprit public. » C'est du reste me supposer bien fou ou bien bête que de croire que si je pouvais faire la paix, je ne la ferais pas. C'est à cette opinion que je veux faire la paix depuis 4 mois, mais que je ne le veux pas, que sont dus tous les malheurs de la France. Je croyais mériter qu'on m'épargnât au moins la démonstration de pareils sentiments. L'empereur, revenant à l'époque de Campo Formio, s'est arrêté sur le compte d'Entraigues, son arrestation, les papiers qu'on lui saisit, les grandes découvertes qu'il fournirent, l'indulgence avec laquelle il le traita, la déloyauté dont il en fut payé, etc., etc. Le comte d'Entraigues, homme de beaucoup d'esprit, intrigant et doué d'avantages extérieurs, avait acquis une certaine importance au commencement de notre révolution. Membre du côté droit de la Constituante, il émigra lors de sa dissolution et se trouvait dans Venise sous un titre diplomatique russe au moment où nous menacions cette ville. Il y était l'âme et l'agent de toutes les machinations qui se tramaient contre la France. Quand il jugea le péril de cette république, il voulut s'évader, mais il tomba dans un de nos postes et fut pris avec tous ses papiers. Le général en chef nomma une commission spéciale pour en faire le dépouillement, et l'on demeura fort étonné des mystères qu'ils découvrirent. On y trouva, entre autres, toutes les preuves de la trahison de Pichegru, qui avait sacrifié ses soldats pour faciliter les opérations de l'ennemi. « Le plus grand crime qu'un homme puisse commettre sur la terre, » s'écriait avec indignation Napoléon, « celui de faire égorger froidement les hommes dont la vie est confiée à votre discrétion et à votre honneur. » Le comte d'Entraigues, une fois ses secrets découverts, s'exprima avec tant de franchise et d'adresse que Napoléon, croyant l'avoir gagné, ou plutôt se laissant gagner lui-même, le traita avec la dernière indulgence, le défendit contre le directoire qui insistait pour le faire fusiller et le laissa libre sur parole dans Milan. Quelles ne furent pas sa surprise et son indignation d'apprendre un matin que M. d'Entraigues venait de s'évader en Suisse et publiait un libelle infâme contre lui, lui reprochant les mauvais traitements qu'il avait reçus, se plaignant d'en avoir été mis au fer. Cette imposture causa un tel scandale que plusieurs diplomates étrangers qui avaient été témoins du contraire le témoignèrent spontanément dans une déclaration publique. Le comte d'Entraigues, aussi tard que 1814, je crois, est mort en Angleterre d'une mort affreuse, assassiné par son valet de chambre à la vue de sa femme, la célèbre chanteuse Saint-Huberti. Pichegru se trouvait précisément alors à la tête du corps législatif et à peu près en guerre ouverte avec le directoire. On juge de quel prix furent pour celui-ci des pièces aussi graves et aussi authentiques contre ses adversaires. Cette découverte influa beaucoup sur le parti que prit Napoléon dans les affaires de Fructidor. Ce fut une des principales causes qui déterminèrent sa fameuse proclamation, laquelle amena le triomphe du directoire. De ceux qui servaient sous Moreau dans l'armée du Rhin, ayant profité de l'armistice pour venir faire connaissance avec le général en chef de l'armée d'Italie, qui lui inspirait la plus vive admiration, se trouvaient auprès de Napoléon à peu près vers le temps de cette grande circonstance. Napoléon, lui ayant fait confidence de la trahison de Pichegru, de ceux répondit « Mais nous le savions sur le Rhin, il y a plus de 3 mois. Un fourgon enlevé par le général Klinglin nous a livré toute la correspondance de Pichegru avec les ennemis de la République. Mais Moreau n'en a-t-il donné aucune connaissance au directoire ?»« Non. » »« Eh bien, c'est un crime, » s'écria Napoléon. « Quand il s'agit de la perte de la patrie, le silence est une complicité. » On sait que plus tard, quand Pichegru eut succombé, Moreau en donna connaissance au directoire en l'accompagnant d'une réprobation injurieuse, ce qui était un nouveau tort, disait Napoléon. Et ne parlant pas plus tôt, il avait trahi la patrie. En parlant plus tard, il accablait un malheureux. Vendredi 11, samedi 12, un rêve de l'empereur. Aujourd'hui, l'on a reçu 6 000 francs de l'argenterie brisée. C'est ce que l'empereur a estimé indispensable pour suppléer à nos besoins journaliers de chaque mois et il a ordonné de répéter cette opération en conséquence. L'empereur a continué d'être fort souffrant et très affaissé. Il n'a paru au milieu de nous qu'à l'heure de son dîner. Il a été fort peu causant, n'a point travaillé. J'ai été une grande partie du jour avec lui dans sa chambre. Il est revenu souvent sur notre situation vis-à-vis du gouverneur. Il m'a dit sur ce sujet des choses bien remarquables. Après dîner, l'empereur est revenu sur un rêve qu'il avait eu, disait-il, dans la nuit. Une dame avec laquelle il avait eu peu de relations, Madame Clark, duchesse de Feltre, lui était apparue, lui avait dit qu'elle l'était morte et avait ajouté beaucoup de particularités suivies raisonnables. « Elles avaient été si claires, si positives, disait l'empereur, que j'en ai été frappé. Et si bien que si je venais à apprendre que cette femme est morte en effet, mes idées naturelles en seraient renversées. Je serais obligé de me rendre et de faire, a-t-il dit en riant et regardant l'un de nous, comme ceux qui croient aux rêves et aux revenants. » L'empereur avait peu mangé, il était abattu et visiblement très souffrant. Il se retirait presque aussitôt, et sa démarche nous affectait beaucoup. Nous n'avons pu nous empêcher de remarquer combien il changeait. Dimanche 13, besoin de l'empereur, ses reprises sur le prince Eugène. Sur les 10 heures, l'empereur est rentré chez moi. Il a entrouvert la porte de ma chambre à coucher, se récriant sur ma paresse. Il m'a surpris les pieds dans l'eau. J'étais souffrant. J'ai couru bientôt le rejoindre sous la tente où il a voulu déjeuner. Il m'a dit avoir ordonné des notes relatives aux nouvelles restrictions afin de ne pas laisser passer condamnation sur nous sans créer du moins une espèce de responsabilité pour ceux qui exécutent. De là, il est passé à calculer les lots d'argenterie qui restent à vendre et le temps que cela peut nous faire vivre. Et comme je répétais mes offres en lui disant qu'il était pourtant bien dur qu'il se privât de son argenterie, il a répondu « Mon cher, dans quelque position que je me trouve, jamais ces objets de luxe ne sont rien pour moi. Et quant aux autres, au public, la simplicité sera toujours mon plus bel ornement. » Et de là, il est passé à dire qu'il avait d'ailleurs la ressource du prince Eugène, qu'il avait la même envie de lui faire écrire une note pour lui demander le crédit nécessaire à sa subsistance quand l'argenterie serait épuisée et le charger, dès cet instant, de lui faire parvenir à Sainte-Hélène des livres essentiels qu'on avait négligé de lui envoyer de Londres et quelque peu de vin soigné dont il avait besoin comme remède. Quoique pour le vin, a-t-il continué, ceux qui ne nous aiment pas en Europe ne manqueraient pas de dire que nous ne songeons ici qu'à boire et à manger. Et il a répété à ce sujet qu'il n'éprouvait nul embarras de s'adresser à son fils Eugène, qui lui devait tout, qui tenait de lui son état et toutes ses richesses, que ce serait lui faire injure que de douter un instant de son empressement, ayant d'ailleurs à exercer sur lui des reprises pour 10 à 12 millions peut-être. À déjeuner, il a fait venir le Polonais qui doit bientôt nous quitter. Et plus tard, il a voulu se mettre au travail, mais il se sentait fort assoupi et s'est endormi à plusieurs reprises. Il a gagné sa chambre pour se livrer tout à fait au sommeil, me donnant rendez-vous à 1 heure de là pour travailler à l'anglais. Mais il a continué à être dans le même état d'assoupissement qu'il n'a interrompu que par un bain très prolongé, suivant sa coutume. Et comme il les prend très chaud, on a lieu de s'étonner qu'il ne lui soit pas très nuisible. Il a peu dîné, se plaignait de vieillir beaucoup, de dormir mal et irrégulièrement. Il a causé assez longtemps sur les ballons, ahuri de toutes les biographies, qui s'obstinaient à le faire escalader, l'épée à la main, le ballon de l'école militaire, et à crier, comme un véritable prodige, la singularité du ballon lancé le jour de son sacre, qui alla tomber en peu d'heures dans les environs de Rome et porter aux habitants de cette grande ville des nouvelles de leur souverain et de la cérémonie qu'il venait d'accomplir. Il a essayé de nous lire du Don Quichotte, mais s'est arrêté au bout d'une demi-heure. Il me répète souvent que nous sommes bien vieux, qu'il l'est encore bien plus que moi. Et ces mots, pour lui, disent beaucoup. Lundi 14. Déclaration exigée, envoyée au gouverneur. Beaucoup de livres modernes, pure spéculation. Fausseté des portraits créés par l'esprit de parti, etc. Général Maison. Aujourd'hui, le grand maréchal a envoyé au gouverneur les nouvelles déclarations qu'on avait exigées de nous. Nous les avons rédigées uniformément et de la teneur suivante. Je, sous-signé, déclare par la présente que mon désir est de rester dans l'île de Sainte-Hélène et de partager les restrictions imposées à l'empereur Napoléon personnellement. J'étais vers 1 heure trouvé l'empereur dans sa chambre. Je lui ai rendu compte de quelques commissions très particulières. Il travaillait sur un livre d'administration de la France. Il le trouvait très mal fait et s'écriait que, depuis qu'il fouillait dans ses livres modernes, il ne trouvait que des livres de spéculation faits à l'entreprise et commandés par les libraires. Le monde était menacé, disait-il, d'un débordement de mauvaises librairies et il ne voyait pas trop de remède à ce fléau. Il a fait sa toilette et de là est passé au salon où il a lu quelques gazettes anglaises et quelques lignes du Télémaque. Il avait peu de goût au travail et se montrait fatigué et ennuyé. Il l'a interrompu et la conversation est devenue très particulière sur des sujets qui le touchaient de près et qu'il a terminé en répétant plusieurs fois « triste race humaine ». Plus tard, dans un autre moment de conversation, l'empereur, passant en revue un grand nombre de personnes connues sur lesquelles il donnait son opinion, s'est arrêté sur une qu'il a peinte comme une des plus immorales et des plus abjectes. Or, elle se trouvait précisément de ma connaissance et je me suis récrié sur ce qu'elle était l'opposé de cela. Et comme je la défendais avec chaleur, l'empereur m'a interrompu, disant « Je vous crois, mais on me l'avait peinte de la sorte. Et bien qu'en général je me fusse fait la loi d'écouter avec défiance, cependant vous voyez qu'il s'engrave toujours quelque chose dans l'esprit. Peut-il y avoir de ma faute, quand je n'avais nul motif particulier de vérification, quel redressement me demeurait ?» Et voilà, a-t-il continué, le résultat inévitable des commotions civiles. Il est toujours deux réputations selon les deux couleurs. Que d'absurdités, que de contes ridicules se sont attachés aux personnages qui ont figuré dans notre révolution. Vos salons sont-ils pleins d'autres choses? Moi, n'en suis-je pas un assez bel exemple? Et après moi, qui, au fait, aurait droit de se plaindre? Cependant, je le proteste, soit par nature, soit par réflexion, jamais rien de tout cela n'influença mon humeur ou n'altéra aucune de mes déterminations. Et puis, passant en revue un grand nombre de généraux, il s'est arrêté sur le général Maison, disant « Ses manœuvres autour de Lille dans la crise de 1814 avaient attiré mon attention et l'avaient gravé dans mon esprit. » Il n'était pas avec nous en 1815. Qu'est-il devenu? Qu'a-t-il fait à cette époque? M'a-t-il demandé. Mais je n'ai pu répondre que je ne le connaissais pas, etc. Mardi 15, difficulté du gouverneur sur nos déclarations, sentiment de l'empereur, entretien du gouverneur avec chacun de nous, observation de l'empereur, notre esclavage consommé. Depuis quelque temps, il m'est impossible de dormir. J'ai passé la nuit entière sans clore l'œil. Sur les 8 heures, comme j'essayais de sommeiller, le grand maréchal est entré dans ma chambre pour me dire que le gouverneur avait renvoyé nos déclarations et venait, le jour même, nous faire signer précisément celle qu'il avait renvoyée pour modèle, qui ne différait de la nôtre que par la qualification d'empereur donnée par nous à Napoléon, tandis qu'on voulait nous le faire appeler simplement Bonaparte. De là, le grand maréchal s'est rendu chez l'empereur, qui m'a fait demander presque aussitôt. En entrant dans sa chambre, je l'ai vu marchant à grands pas et s'exprimant avec beaucoup de chaleur. Nous étions tous réunis. « Les outrages, disait-il, dont on nous abreuve journellement, ceux qui se sont voués à ma personne, ces outrages qu'on semble vouloir multiplier bien davantage encore, forment un spectacle que je ne dois ni ne peux supporter plus longtemps. » Messieurs, il faut me quitter, vous éloigner. Je ne saurais vous voir vous soumettre aux restrictions qu'on veut vous imposer et qu'on accroîtra demain. Je veux demeurer seul. Allez en Europe. Vous y ferez connaître les odieuses menées dont on use envers moi. Vous direz m'avoir vu descendre vivant dans le tombeau. Je ne veux pas qu'aucun de vous signe cette déclaration telle qu'on vous l'impose, je vous le défends. Il ne sera pas dit qu'on se sera servi des mains qui sont à moi, des mains dont je dispose, pour me dégrader. Si l'on vous renvoie pour le refus d'une pure et sotte formalité, c'est qu'on vous renverrait demain pour un motif aussi léger, c'est qu'on est résolu de vous éloigner en détail. Eh bien, je préfère vous éloigner en masse. Peut-être puis-je, dans ce sacrifice, entrevoir quelques résultats. Et il nous a congédiés. Nous sommes sortis consternés. Peu d'instants après, l'empereur m'a fait rappeler. Il se promenait dans la longueur de ses deux petites pièces. Sa voix était devenue douce, même caressante. Jamais je ne lui avais vu plus d'abandon, je m'en sentais ému. « Eh bien, mon cher, m'a-t-il dit, je vais donc me faire ermite. »« Eh, sire, ai-je répondu avec quelque attendrissement, ne l'êtes-vous pas déjà? Car de quelle utilité et de quelles ressources sommes-nous pour vous? Nous n'avons ici que des vœux, mais s'ils sont peu pour votre consolation, ils sont tout pour notre bonheur. » Notre situation en ce moment est la plus affreuse qui se puisse concevoir, parce que, dans la question qui s'agite, et pour la première fois peut-être, nous ne nous trouvons plus du même côté que votre majesté. Elle nous parle raison et nous n'obéissons qu'au sentiment. Il n'y a rien à répondre à votre raisonnement de tout à l'heure. Votre détermination vous ressemble tout à fait, elle n'étonnera personne, mais l'exécution est au-dessus de nos forces. L'idée de vous laisser seul ici, de vous savoir seul dans la nature, dépasse en douleur toutes les bornes de notre imagination. Voilà pourtant ma destinée, a répondu tranquillement l'empereur, et je dois m'attendre à tout. Mais mon âme est de force à répondre à tout. Ils me feront mourir ici, c'est certain. Sire, l'acte que vous nous commandez ne saurait entrer dans l'esprit d'aucun de nous. Aussi, pour moi, je parlerai jusqu'au bout, comme a fait votre majesté, je me défendrai sur ce point jusqu'à extinction, mais j'agirai différemment. L'empereur s'est assis, m'a fait asseoir auprès de lui. Il se sentait fatigué, disait-il, et a demandé son déjeuner. Il me l'a fait partager. Depuis longtemps, je ne dînais presque plus avec lui. Il m'en avait dit la raison, et me l'avoir dite était une plus grande faveur encore. Au moment du café, il ne se trouvait pas de tasse pour moi. Marchand allait sortir pour en chercher. Prenez sur ma cheminée, a dit l'empereur, il boira dans ma belle tasse d'or. Comme le déjeuner finissait, est entré le grand maréchal, disant que le gouverneur venait d'arriver et le faisait demander dans sa nouvelle maison, de lui, Bertrand, à 50 pas de notre établissement, laquelle est sur le point d'être finie. L'empereur lui a dit de s'y rendre, et comme le grand maréchal, dans son geste et ses paroles, semblait demander s'il persistait toujours dans l'ordre qu'il nous avait donné ce matin, s'il n'y aurait pas moyen de le fléchir, je ne suis point un enfant, reprit vivement l'empereur. Quand j'ai coulé à fond une question, il ne me reste plus sous deux faces dans la tête. J'ai ordonné des batailles qui ont décidé du sort des empires. L'ordre n'en partait jamais que de ma volonté réfléchie et arrêtée. Or ici, tout ce dont il s'agit ne regarde que ma personne. Allez. Le grand maréchal est revenu bientôt, après rendre compte de sa conversation, qu'il avait terminée par son refus. Le gouverneur, disait-il, faisait demander les 3 autres de nous à la fois. Il nous a semblé plus convenable pour nous de nous y présenter successivement. Je me suis mis en route. Je l'ai aperçu, entouré de plusieurs des siens, à l'extrémité gauche du jardin, au débouché de la maison du grand maréchal. Il est rentré en m'apercevant et je l'ai rejoint dans le milieu de la cour. Il s'était annoncé comme fort irrité contre moi. J'arrivais cuirassé. Mais il m'a conduit avec des politesses marquées dans l'intérieur, faisant demeurer au dehors les officiers de sa suite, et m'ayant dit qu'il attendait, pour entrer en matière, l'arrivée de messieurs de Montholon et Gourgaud, je lui ai demandé s'il aurait la moindre objection à la traiter immédiatement avec moi. Il n'en avait aucune, a-t-il répondu. Et faisant entrer alors ses officiers, il m'a dit en leur présence que je connaissais sans doute par le grand maréchal ce qu'il avait à me proposer au sujet de ma déclaration. Je lui ai répondu que oui, et que le grand maréchal étant par son rang, aussi bien que par la vénération et l'estime que je lui portais, mon modèle et mon guide, il devait attendre de moi la même réponse. Que du reste, je ne comprenais pas comment on attachait à une chose purement de forme une importance qui devait avoir des résultats aussi douloureux pour nous et nullement profitables pour ceux qui l'exigeaient. Il n'est pas en mon pouvoir, a observé le gouverneur, de faire l'altération que vous désirez. Il m'est ordonné de vous présenter à signer la déclaration écrite de ma main. Or, je ne saurais écrire, moi, anglais, la qualification à laquelle vous tenez. J'ignorais cette circonstance, ai-je répondu, et je ne puis avoir de réponse contre une pareille raison. Vous, anglais, vous devez écrire ainsi, mais moi, français, je dois signer dans mon langage, c'est-à-dire avec la traduction du vôtre. Aussi permettez-moi d'ajouter à ma signature la phrase qu'il vous plaira de me dicter, dans laquelle je puisse m'exprimer dans mon langage. Vous voyez, ai-je ajouté, si je mets de la franchise dans mes intentions et si je cherche à créer des embarras. La proposition a semblé attirer toute son attention. Tout ceci, ai-je continué, est une dispute sur de simples mots, qui, dans des circonstances aussi grandes que les nôtres, peut sembler bien petite. Mais, monsieur, qui de nous a créé des difficultés? Qui de nous en souffre? Votre refus nous mettrait dans une position affreuse. Vous me voyez dans un vrai désespoir. M'éloigner de l'empereur me serait pis que la mort. Mais pourtant, il le faudrait plutôt que de le dégrader de mes propres mains. L'empereur a réuni sur sa tête tout ce qui, de la part des hommes et du ciel, confère un caractère auguste. Vouloir le nier serait nier la lumière du soleil. Le gouverneur a observé que lui, anglais, ne l'avait pas reconnu. C'était encore là une raison, disais-je, à laquelle je n'avais rien à objecter, que les qualifications qu'il employait pouvaient me déplaire, mais que je n'avais point à les combattre, et que, par la même raison, il devait n'avoir rien à objecter à mon opinion et à mes expressions, à moi, français, dont il demandait la signature. Ici, Sir Hudson Lowe s'est aigri, et revenant sur des circonstances passées qui lui étaient personnelles, il s'est échappé jusqu'à dire qu'il ne connaissait après tout de vrai titre au respect que les qualités morales. À ce prix, monsieur le gouverneur, ai-je répondu avec vivacité et me tournant vers ses officiers, l'empereur pourrait facilement se dévêtir de tous ses titres et ne ferait que gagner dans tout l'univers à être traité d'après cette échelle. Le gouverneur a gardé le silence. Et puis il a repris que constamment nous traitions notre général d'empereur. Et comment pourrions-nous le traiter autrement, je vous prie? Mais je veux dire que vous continuez à le regarder comme souverain. Monsieur le gouverneur, vous parlez de souveraineté, c'est de notre part bien plus encore, c'est du culte. L'empereur, à nos raisons et dans nos sentiments, n'est plus de cette terre, nous le voyons dans les nuées, dans le firmament. Et quand vous nous laissez des choix en opposition avec lui, c'est le choix des martyrs auxquels on disait « renoncez à votre culte ou mourrez ». Eh bien, nous ici, nous n'aurions qu'à mourir. Ces paroles ont produit une impression visible sur les officiers présents et même sur le gouverneur. Contre son ordinaire, sa figure se montrait paisible et sa voix est devenue douce. Notre situation ici, ai-je continué, est si affreuse qu'elle devient au-dessus des forces de la vie, vous le savez. Eh bien, ce n'est rien encore auprès du supplice que vous nous réservez. Ce que je vous ai demandé est facile et nous accorde tous. Vous me voyez devant pour le solliciter, et de ma part, c'est assurément beaucoup, car je ne suis point dans l'habitude de vous importuner. Accordez-le, vous aurez fait quelque chose pour nous, je vous en aurai de la reconnaissance. Et puis songez encore qu'il est une responsabilité, une opinion publique en Europe, et que vous pourriez la heurter sans aucun avantage. Les sentiments qui m'animent ne sauraient vous être étrangers. Ils doivent sans doute aller au cœur de tous ceux qui m'écoutent. » Ici, le gouverneur a paru remué, les officiers l'étaient. Il a gardé quelques moments de silence, m'a salué, et nous nous sommes séparés. Messieurs de Montholon et Gourgaud ont eu leur tour, et nous nous sommes retrouvés tous les quatre auprès de l'empereur, à sa toilette, sans que nous puissions l'informer positivement s'il avait été rien décidé à notre égard. L'empereur a ensuite voulu prendre l'air en dépit d'un vent très fort, et nous avons marché tous jusqu'au fond du bois. Il passait en revue toutes les combinaisons du gouverneur avec cette rapidité et cette fécondité qui lui est propre, et concluait toujours par dire que si nous concédions aujourd'hui une signature pour échapper au départ, demain il se trouverait une autre cause d'expulsion, et qu'il aimait mieux que cela fût plutôt avec éclat que sans bruit. Puis, donnant tout à coup à la chose une tournure de plaisanterie, il disait que le gouverneur, après tout, ne voudrait peut-être pas réduire le nombre de ses sujets à un seul, et quel sujet encore, ajoutait-il, un vrai porc-épic sur lequel il ne saurait comment poser la main. Durant notre promenade, deux étrangers se sont montrés assez près de nous. L'empereur leur a fait demander qui ils étaient. Ils appartenaient au bâtiment qui devait appareiller le lendemain pour l'Europe. L'empereur leur a demandé quelle autorité ils verraient en arrivant à Londres. « Lord Bastrust, » ont-ils répondu. « Dites-lui qu'il me traite bien odieusement par ses instructions et qu'il a ici un agent qui les exécute bien fidèlement. S'il voulait se défaire de moi, il aurait dû m'expédier d'un coup et non pas me faire mourir à petit feu. Rien ne saurait être plus barbare. Il n'y a rien d'anglais dans tout cela. » Je l'attribue à quelques personnalités. J'estime assez le prince régent, la masse des ministres, la nation anglaise, pour ne pas les en rendre responsables. Quoi qu'il en soit, le corps seul est au pouvoir des méchants. L'âme règne partout. Du fond des cachots même, elle peut s'élever jusqu'au ciel. Au retour, l'empereur a pris un bain. Il m'a fait appeler, il était fatigué, harassé des événements du jour. Il s'y est endormi et je le veillais. Je méditais sur nos chagrins nouveaux, ils étaient bien grands. À dîner, il a un peu mangé. Quelqu'un de nous racontait, et l'empereur faisait répéter, ce qui lui arrive souvent. Le narrateur ayant repris d'un ton plus haut, l'empereur a dit « Décidément, je suis sourd, je le vois bien, car je n'entends pas et je suis tenté de me fâcher si l'on veut parler plus haut. » Il a fini par nous lire du Don Quichotte, s'est arrêté à quelques plaisanteries et, posant le livre, a dit qu'il fallait assurément avoir du courage pour rire en cet instant de pareille babiole. Il a rêvé profondément quelque temps, s'est levé et nous a quittés en disant « Adieu, chers amis ». Cependant, on m'avait remis pendant le dîner une lettre du grand maréchal. Je l'avais tenue secrète, n'en augurant rien de bon. Je l'ai ouverte dès que nous nous sommes trouvés à nous-mêmes. C'était une lettre du gouverneur annonçant que, sur nos refus, il allait donner des ordres pour nous transporter au Cap. Nous n'avons écouté que nos sentiments. Nous séparer de l'empereur était au-dessus de nos forces, au-dessus de notre désir, de ses ordres même à ce qu'il nous semblait. Nous nous sommes hâtés d'un sentiment unanime de signer nos déclarations telles qu'on nous les avait faites et avons été les remettre chez l'officier anglais de service à Longwood avec une lettre pour le grand maréchal dans laquelle nous lui marquions ce que nous venions de faire sans sa participation. Le cœur seul nous avait conduits et si l'empereur devait s'en fâcher, notre cœur seul encore devait nous consoler. Ainsi se trouva consommé notre véritable esclavage, entière dépendance aux volontés, aux caprices de Sir Hudson Lowe, moins encore par la signature que nous venions de lui donner que parce qu'il tenait notre secret et qu'il savait désormais comment nous faire arriver à tout ce qui lui plairait. Mercredi 16. Anecdote sur Sieyès, nuance, l'empereur souvent déguisé dans les fêtes populaires, visite au faubourg Saint-Antoine après Moscou et l'île d'Elbe, meurt sous le directoire, note officielle remarquable. L'empereur m'a fait venir vers midi. Il finissait de prendre une tasse de café et achevait une lecture. Il m'a dit de m'asseoir et s'est mis à causer. Dans le cours de la conversation, un mot m'a fait comprendre qu'il savait déjà notre détermination de la veille, mais il a gardé un silence entier sur la chose même et il n'en a plus été question aujourd'hui ni plus tard. Après son déjeuner, l'empereur s'est mis à se promener dans deux pièces. La conversation a conduit à des anecdotes des temps antérieurs. Sieyès en faisait les frais. L'empereur racontait qu'aumônier des princes d'Orléans, et leur disant un jour la messe, quelque chose d'imprévu les fit sortir successivement durant l'office. L'abbé, se retournant et n'apercevant plus que les valets, ferma le livre et sortit aussitôt, disant qu'il n'était pas payé pour dire la messe à la canaille. Je disais à l'empereur, c'est de la bouche même de votre majesté que j'ai appris le nom de l'abbé Sieyès et que je suis venu à connaître sa figure. Quelques jours après ma présentation à la cour, dans une de vos audiences, après m'avoir dépassé, votre majesté s'arrêta à mon voisin en l'interpellant par son nom. Tout encore au préjugé de l'émigration, je me crus pestiféré. C'était pour moi une hyène, un griffon, tout ce qu'on voudra, tant il était mal noté et poursuivi parmi nous. « Nul doute, mon cher, a repris l'empereur, que ce ne fût la mort sans phrase qu'il s'agissait, mais on assure qu'il l'a désavoué. » Alors je lui ai répété une anecdote qui avait couru dans le temps au faubourg Saint-Germain, sur laquelle on a dû voir plus haut que l'empereur ne s'était pas prononcé. On lui faisait répondre à Sieyès, qui avait employé le mot de « tyran » en parlant de Louis XVI. « Monsieur l'abbé, s'il eût été tyran, je ne serais pas ici, et vous diriez encore la messe. » J'aurais pu le penser, a dit cette fois l'empereur, mais je n'aurais jamais eu la bêtise de le dire. C'est un des contes bleus de vos salons. Je ne faisais pas de pareille gaucherie. J'avais pour but d'éteindre le feu, et j'aurais eu garde de jeter des combustibles dans un brasier. Le torrent, alors, n'était que trop prononcé contre certains chefs de la Révolution. J'étais obligé de les soutenir, et je le faisais, loin de les lâcher. Aussi, quelqu'un ayant déterré, on ne sait où, un buste de Sieyès en abbé, on l'étala dans une exposition publique du gouvernement. Ce fut aussitôt un canton universel. Sieyès, furieux, se mettait en route pour me porter plainte, mais la mercuriale était déjà donnée et le buste retiré. Mon grand principe était de prévenir toute réaction, d'ensevelir entièrement le passé. Jamais on ne m'a vu revenir sur aucune opinion ni proscrire aucun acte. Je m'étais environné de votants, j'en avais au ministère, au Conseil d'État, partout. Je n'approuvais pas la doctrine, mais je n'avais rien à faire avec l'acte. Étais-je leur juge, et qui m'en eût donné le droit? Puis les uns avaient agi par conviction, d'autres par faiblesse et terreur, tous par délire, la fureur, la tempête du moment. Le pauvre Louis XVI se trouva sous la fatalité des tragiques grecs, etc. Je disais encore à l'empereur qu'il avait couru aussi dans le faubourg Saint-Germain, que Sieyès ayant été pris en flagrant délit, conspirant contre lui lors de l'affaire de M. Clément de Ry, enlevé et mis en charte privée par les chouans, et que lui, Napoléon, lui avait fait grâce au prix de son éloignement et de son abnégation politique. Nouvelle fable de vos oisifs. Il n'y a pas le plus léger fondement à cette histoire, a repris l'empereur. Sieyès m'a toujours été attaché, je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Il a pu être fâché de me trouver dans le chemin de ses idées métaphysiques, mais il en revenait à sentir la nécessité que quelqu'un gouvernât, et il me préférait à un autre. Sieyès, après tout, était probe, honnête et surtout fort habile. La révolution lui doit beaucoup. Et il s'est mis à raconter qu'à une des premières fêtes du consulat, considérant les illuminations avec Sieyès, il lui avait demandé ce qu'il pensait des affaires. Sieyès se montra plus froid, fut même décourageant. « Mais cependant, j'ai trouvé ce matin tout le peuple dans des dispositions excellentes. » Rarement, répondait à cela Sieyès, le peuple se montre à découvert vis-à-vis de celui qui, possédant le pouvoir, apparaît à ses regards. Mais je dois vous dire qu'il n'est pas content. Vous ne croyez donc pas que ce gouvernement tienne? Non. Vous ne croyez donc pas si fini? Non. Et quand le regarderez-vous comme fini? Quand je verrai dans votre antichambre les anciens ducs, les anciens marquis, dit Sieyès. Et l'empereur ajoutait, Sieyès ne se doutait pas que ce serait si tôt. Il ne lisait jamais fort au loin, s'il avait la vue courte. Je pensais, bien intérieurement comme lui, que tout ne pouvait pas être fini avec la République, mais je sentais que l'Empire n'était pas loin. Aussi, 2 ou 3 ans plus tard, n'ayant pas perdu le souvenir de l'anecdote, dans une de mes grandes audiences, je dis à Sieyès, « Eh bien, vous voici pêle-mêle avec les anciens ducs et les anciens marquis. Regardez-vous le tout comme fini ?»« Oh oui, » dit Sieyès, s'inclinant profondément, « vous avez accompli des prodiges que rien n'égale et qu'il était au-dessus de mes forces de prévoir. » L'empereur, dans son consulat et même sous l'Empire, le jour des fêtes publiques, allait parfois très tard se mêler dans la foule, voir les illuminations et entendre les propos du peuple. Cela lui est arrivé même avec Marie-Louise. L'un et l'autre ont été bras à bras le soir sur les boulevards et se sont donné le plaisir, disait l'empereur, moyennant leur petite rétribution, de contempler dans les lanternes magiques leur majesté, l'empereur et l'impératrice des Français, toute leur cour, etc. Dans un de ces demi-déguisements, sous le consulat, Napoléon, dans une des embrasures de l'hôtel de la Marine, considérait une illumination publique. Il était à côté d'une dame, anciennement considérable à ce qu'il paraît, qui nommait à sa fille, vraiment charmante, les personnes remarquables qui défilaient dans les appartements. À l'une d'elles, elle ajouta, « Faites-moi rappeler ma fille que nous devons l'aller voir, elle nous a rendu service. » « Mais ma mère, répondit la jolie personne, je ne croyais pas qu'avec ces gens-là on fût tenu à reconnaissance, je croyais qu'ils étaient déjà assez heureux d'obliger des personnes comme nous. » La Bruyère, assurément, disait l'empereur, eût fait son profit de telles paroles. L'empereur déguisé parcourait souvent la capitale, il sortait surtout de très grands matins, seul, à pied dans les rues, se mêlait aux ouvriers dont il cherchait à connaître la situation et l'esprit. Plus d'une fois, je l'ai entendu au Conseil d'État recommander au préfet de police d'en faire autant. C'était ce qu'il appelait la police du cadi, celle qui s'exerce en personne et qu'il estimait de beaucoup la meilleure. Napoléon, de retour de la désastreuse campagne de Moscou et de Leipzig, pour maintenir la confiance, affecta de se placer souvent et presque seul au milieu de la multitude. Il parcourait, lui, 3e ou 4e, les marchés, les faubourgs et toutes les parties populeuses de la capitale où il causait familièrement. Et partout il fut bien reçu, bien traité. Un jour, à la halle, après quelques mots échangés, une femme se hasarda à lui dire qu'il fallait faire la paix. « La bonne, continuez de vendre vos herbes, reprit l'empereur, et laissez-moi faire ce qui me regarde, chacun son métier. » Et tous les assistants de rire et d'applaudir à son opinion. Un autre jour, au faubourg Saint-Antoine, entouré d'une immense multitude, parmi laquelle il se montrait très bonhomme, un des assistants osa l'interpeller. « Est-il vrai, comme on dit, que les affaires vont si mal ?»« Mais, répondit l'empereur, je ne peux pas dire qu'elles aillent trop bien. »« Mais comment cela finira-t-il donc ?»« Ma foi, Dieu le sait. »« Mais comment est-ce que les ennemis pourraient entrer en France ?» Cela pourrait bien être, et venir même jusqu'ici si l'on ne m'aide pas. Je n'ai pas 1 million de bras, je ne puis pas faire tout à moi tout seul. Mais nous vous soutiendrons, dirent un grand nombre de voix. Alors je saurai bien battre encore l'ennemi et conserver toute notre gloire. Mais que faut-il donc que nous fassions? Vous enrôler et vous battre. Nous le ferions bien, dit un autre, mais nous voudrions y mettre quelques conditions. Eh bien, lesquelles, dites? Nous voudrions ne pas passer la frontière. Vous n'en passerez pas. Nous voudrions, dit un troisième, être de la garde. Eh bien, va pour la garde. Et les acclamations de retentir. Des registres furent ouverts sur le champ, et plus de 2000 individus s'enrôlèrent dans la journée. En les quittant, Napoléon regagnait lentement les Tuileries, pressé par cette multitude en désordre qui faisait retentir l'air de ses cris. Lorsqu'il vint à déboucher sur le carrousel, le tout fut pris pour une insurrection, si bien que l'on s'empressa de fermer les grilles. À son retour de l'île d'Elbe, l'empereur fit une pareille visite au faubourg Saint-Germain et y fut reçu avec un enthousiasme sans égal. Il fut reconduit de même. Traversant le faubourg Saint-Germain, la rage de la multitude s'exhalait contre ces beaux hôtels et en montrait les fenêtres d'une main furieuse. L'empereur disait s'être trouvé, bien rarement, dans une situation aussi délicate. Que de mots, disait-il, n'eussent pas pu produire une seule pierre lancée du milieu de cette multitude, ou une seule parole imprudente, ou même une expression seulement équivoque de mon visage. Le faubourg malveillant pouvait disparaître dans son entier, et je crois bien que ce ne fut qu'au calme de ma personne, au respect que me portait cette multitude, que fut due sa conservation. À l'heure de sa toilette, l'empereur se faisait couper les cheveux par Santini. J'étais à son côté, un tant soit peu en arrière, une grosse touffe est tombée à mes pieds. L'empereur, me voyant me baisser, a demandé ce que c'était. J'ai répondu que j'avais laissé tomber quelque chose que je ramassais. Il m'a pincé l'oreille en souriant, il venait de deviner. Plus tard, parlant de la dépravation et de l'immoralité des mœurs du temps, lorsqu'il commandait l'armée de l'intérieur de Paris, Napoléon racontait qu'un ordonnateur en chef vint lui demander quelques signatures et le prier d'appuyer certaines nominations et certaines fournitures, ce qu'il n'hésita pas à promettre parce que cela lui semblait juste. L'ordonnateur, en se retirant, laissa très adroitement sur la cheminée deux petits rouleaux de 100 louis. On ne connaissait encore que les assignats, c'était donc une somme énorme. Très heureusement, le général fut le premier à s'en apercevoir, et avant que le visiteur fût loin, on le rappela. Il essaya de nier d'abord, puis il ajouta de bonne foi qu'il fallait que chacun vécût, que le gouvernement ne donnait point d'appointement, que cette manière était aujourd'hui l'usage général, et qu'après tout, il priait qu'on ne se fâchât pas, qu'il était rare qu'on eût à solliciter de pareils pardons. L'empereur, au moment de sa promenade, se trouvait fort assoupi, et, voulant se vaincre, il n'en est pas moins sorti, en dépit d'un vent très violent. Au bout de quelques pas, il a renoncé à la promenade, et nous avons gagné l'appartement de Madame de Montholon. À peine assis sur le canapé, l'empereur s'est assoupi de nouveau. Il est sorti encore pour vaincre cette disposition et a gagné le salon. Il se plaignait d'une forte chaleur intérieure. Il a demandé un verre d'eau panée, et l'assoupissement continuant toujours, il a pris le parti d'y céder et se retirer dans sa chambre. Vers 7 heures, l'empereur m'a fait appeler et m'a dit de garder au nombre des pièces officielles la note suivante qu'il m'a remise. Elle était envoyée de sa part le matin au gouverneur. Note. Il me revient que dans la conversation qui a eu lieu entre le général Law et plusieurs de ces messieurs, allusion aux conversations du mardi 15, il s'est dit des choses sur ma position qui ne sont pas conformes à mes pensées. J'ai abdiqué dans les mains des représentants de la nation et au profit de mon fils, je me suis porté avec confiance en Angleterre pour y vivre là, ou en Amérique, dans la plus profonde retraite et sous le nom d'un colonel tué à mes côtés, résolu à rester étranger à toute affaire politique, de quelque nature qu'elle puisse être. Arrivé à bord du Northumberland, on me dit que j'étais prisonnier de guerre, qu'on me transportait au-delà de la ligne et que je m'appelais le général Bonaparte. Je dus porter ostensiblement mon titre d'empereur Napoléon en opposition au titre de général Bonaparte qu'on voulait m'imposer. Il y a 7 ou 8 mois, le comte de Montholon proposa de pourvoir à de petites difficultés qui naissent à chaque instant en adoptant un nom ordinaire. L'amiral crut devoir en écrire à Londres, cela en est resté là. On me donne aujourd'hui un nom qui a cet avantage, qu'il ne préjuge pas du passé, mais qui n'est pas dans les formes de la société. je suis toujours disposé à prendre un nom qui entre dans l'usage ordinaire et réitère que, quand l'on jugera à propos de me faire cesser ce cruel séjour, je suis dans la volonté de rester étranger à la politique, quelque chose qui se passe dans le monde. Voilà ma pensée. Toute autre chose qui aurait été dite sur cette matière ne la serait pas. L'empereur a fort peu mangé à dîner. Son état avait quelque chose d'extraordinaire. Avant, durant et après le dîner, il se sentait vaincu par l'assoupissement qui durait depuis le matin, et sa crainte, a-t-il dit en nous quittant, était de ne pas dormir, tant ce qu'il éprouvait était contraire à sa nature. D'ordinaire, il dort profondément quand il en a besoin, au lieu qu'ici, ce n'avait été tout le jour qu'un sommeillage, disait-il. Aujourd'hui, une frégate est partie pour l'Europe.